BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom sur BFM Business. On est toujours cette semaine au Crystal Media and Advertising depuis Samoëns. On va parler ensemble des grandes tendances de 2019. L'indifférence que le consommateur développe en ce moment vis-à-vis des marques, c'est le sujet qui tient à cœur de Raphaël De Andréis, le président de l'UDECAM, qui sera avec nous. Comment réinstaurer un peu d'intimité pour le consommateur avec une publicité qui parfois peut être intrusive, c'est le sujet de Jean-Luc Chétrit de l'UDA. On parlera également de l'invasion du brand content avec Julien Ciappolini de McCann et de l'activation des communautés, grande tendance aussi de cette année 2019 à venir. On sera avec Marie Perrin du Club Med. Tout ça, c'est à suivre dans HebdoCom et ça commence maintenant.
BFM Business, HebdoCom, l'édito.
Et pour commencer cette émission, évidemment, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et on accueille Charlotte Bricard, également de la rédaction de CB News. Bonjour Charlotte.
Bonjour à vous deux.
Alors Charlotte, j'aimerais savoir ce que vous avez retenu de cette édition 2018 du Crystal Mad.
La première chose, spontanément, j'ai envie de vous dire le Grand Prix. Pourquoi le Grand Prix? Surtout pour son engagement, parce que c'est un petit peu une constante. La dernière fois qu'on débriefait un festival, c'était à Cannes, ouais. Et c'était déjà le sujet de notre discussion, puisqu'on célébrait la campagne de Procter et Gamble qui avait le Grand Prix pour sa lutte contre les discriminations raciales notamment. Eh bien, The Great Mad, qui est la plus haute distinction de ce festival, a choisi justement de récompenser une campagne baptisée Universal Love, qui, elle, lutte contre, ou plutôt pour, l'amour pour tous, et en particulier pour la communauté LGBT.
Alors, elle consiste en quoi alors, cette campagne ?
Cette campagne, c'est une initiative de MGM Resorts. Alors MGM Resorts, pour resituer, c'est en gros tous les hôtels casinos les plus prestigieux de Las Vegas. Ils ont eu comme idée de réécrire les paroles des titres classiques de la musique, tels que, je sais pas, prenez Janis Joplin qui chante I Need a Man to Love, et bien ça devient I Need a Woman to Love dans la bouche de Keisha. My Girl devient My Man, etc.
Ah,
etc.
D'accord.
Et cet engagement, on le retrouve dans le palmarès français, où on a retrouvé des campagnes qu'on connaît, Lacoste et sa lutte contre les espèces en voie de disparition, Pedigree et son engagement pour trouver des maîtres aux chiens abandonnés, ou encore le Black Supermarket de Carrefour.
Mais Charlotte, il n'y a pas autre chose que l'engagement, parce que bon, l'engagement, on commence à connaître maintenant.
Si, il y a l'interaction aussi. Alors l'interaction qu'on retrouve pas seulement en digital, on peut noter d'ailleurs que le digital a récompensé la France, puisque la campagne pariée sur le coupable, imaginée par Publicis, c'était un bel exemple d'interaction. Il fallait parier sur l'identité du tueur de la série lancée sur France 3, la série La Forêt. Mais en termes d'interaction, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette interaction sur d'autres catégories. Prenez le film Burger King, Come as a Clown, Eat as a King. L'idée, c'est d'offrir aux consommateurs le soir d'Halloween qui arriverait déguisé en clown des hamburgers en pied de nez à son concurrent. Concurrent qui, de son côté, utilise des panneaux publicitaires comme des panneaux signalétiques pour lui aussi emmener directement le consommateur droit vers le restaurant le plus proche. Donc l'interaction, un petit peu toute catégorie confondue.
D'accord. Et une dernière tendance peut-être qui se dégage aussi ?
La dernière, elle est assez cohérente avec le thème du festival puisque c'est la technologie qui est vraiment au cœur des dispositifs les plus innovants, les plus créatifs. Je prendrai par exemple la data qui a été brillamment utilisée dans la catégorie média par le SNCF canadien qui s'appelle Via Rail, qui pour enjoindre les Canadiens a préféré le train à leur voiture ou à l'autobus, a utilisé les données en temps réel de circulation avant, pendant et après leur voyage pour comparer les temps de trajet en temps réel. Autre technologie mise en valeur par ce palmarès, on peut citer la technologie haptique utilisée par l'Institut du cerveau et de la moelle épinière pour sa dernière campagne de sensibilisation à Parkinson, ou encore celle utilisée par Citroën et BETC pour concevoir des lunettes contre le mal
de mer.
Anti-mal de mer et des transports. En général.
Merci Charlotte Bricard. On va maintenant continuer à balayer justement tous ces sujets dont vous venez de parler avec nos invités. Et on accueille donc ce matin Raphaël Deandris, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'UDECAM, l'Union des entreprises de conseil et achats médias. Alors on parle dans cette émission des grandes tendances pour l'année 2019. Et vous ici au Cristal, à Samoins, vous avez insisté sur un mur de l'indifférence qu'il va falloir briser. Qu'est-ce que c'est que ce mur de l'indifférence?
Bon, c'est des études tout simplement auprès de consommateurs qui nous montrent que une étude qui s'appelle Meaningful Brand, qui est faite auprès de plus de 30 000 personnes dans le monde, qui nous montre que 74% des marques pourraient disparaître dans une certaine forme d'indifférence. Non pas que les gens n'aiment pas ces marques, mais tout simplement qu'ils pourraient en changer sans problème. Et donc ça veut dire que, au fond, le sujet pour les marques aujourd'hui, c'est de recréer un vrai lien, un vrai engagement avec les consommateurs.
Alors comment est-ce qu'elles peuvent faire? Parce que si les gens sont aussi indifférents, et pourtant elles ne sont pas immobiles, les marques, elles font de la publicité, donc qu'est-ce qu'il faut faire de plus?
À mon sens, il faut changer les recettes qui ont toujours eu cours dans le marketing et la publicité. Autrefois, on disait d'une marque, il faut qu'elle ait de la notoriété, qu'elle soit connue et qu'on l'aime, et voir qu'elle nous convainque. Aujourd'hui, ça suffit plus du tout. On peut avoir tout ça et disparaître sans problème. Donc, il faut aller plus loin. Il faut des marques qui aient un vrai point de vue, qui engagent les gens, qui veuillent dire quelque chose dans la vie des gens et pour lesquels les gens puissent, autour desquels les gens aient envie de converser, que des gens aient envie de défendre. Et il y a quand même beaucoup de marques qui savent faire ça aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une réinvention complète, d'où l'importance d'une agence.
Réinvention complète qui doit peut-être s'accélérer avec l'arrivée des assistants vocaux. Parce que si c'est, on va prendre Amazon pour le cas le plus connu, mais si c'est Amazon Echo qui décide à ma place en me proposant directement une marque, ça pose problème?
C'est très juste, parce qu'en fait, plus vous allez, un peu comme le search depuis une dizaine d'années, plus vous êtes sur des mots génériques, des piles, de l'eau minérale, des couches, plus au fond, la marque disparaît. Avant les interfaces vocales, vous avez quand même un linéaire, un rayon, des choses devant vous, du packaging, d'autres signaux qui vous permettent de faire votre choix. Une fois que vous êtes face à ce moment crucial du choix, avec les assistants vocaux, au fond, la marque, elle disparaît encore un peu plus. Donc c'est vrai, vous avez complètement raison, qu'on arrive vers une nouvelle grande disruption, pour employer ce mot un peu à la mode, qui est que, au fond, soit vous avez quelque chose que vous demandez de manière précise parce que vous voulez ce produit de cette marque, et pour ça il faut que vous ayez un lien très précis, soit vous allez aller vers ce que va vous proposer Amazon. Oui, faisons simple, c'est arrivé dans l'univers des piles à une très grande marque qui en a beaucoup souffert.
Mais alors, il y a quand même une contradiction assez complexe à résoudre, parce que d'un côté, on a des consommateurs qui, comme le montrent les études, sont assez indifférents aux marques. Et puis de l'autre côté, ces mêmes consommateurs qui sont résistants ou en tout cas pas très heureux avec la publicité qui les envahit, en particulier sur le web. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette équation? Comment est-ce qu'on peut redevenir désirable sans pour autant s'imposer constamment dans les parcours des consommateurs?
Vous avez raison, Frédéric, c'est totalement lié. En fait, à force de bombarder les gens de messages sous prétexte que la technologie aujourd'hui nous permet de cibler les gens, de dire les gens à un moment donné je sais où ils sont, je sais qui ils sont, et à ce moment-là je peux les toucher, donc j'envoie mes munitions, au bout d'un moment les gens ils créent une forme de système immunitaire contre ça, et donc ça va dans le sens d'un moindre attrait des marques. Et donc il faut, quand je dis qu'il faut tout réinventer, c'est qu'aujourd'hui il faut construire les marques. Elles peuvent jamais faire l'économie d'une vraie stratégie, d'un vrai point de vue. Qu'est-ce que cette marque veut, fait, comment elle se comporte en tant qu'entreprise? Qu'est-ce qu'il y a dans son produit? On parle beaucoup de transparence, mais la transparence, c'est simplement pour dire aux gens, quand vous achetez ce produit, vous faites aussi quelque chose qui a du sens, mais ça peut être des choses aussi désirables. Les marques de luxe y arrivent beaucoup mieux. Bien sûr, elles ont des démarches éthiques, mais au-delà de ça, parce qu'elles sont plus irremplaçables. Donc, il faut construire tout un système qui est au croisement du désir et de la responsabilité et du besoin, mais au-delà de ça, construire un système de communauté. Donc si vous aujourd'hui vous avez une marque qui a une communauté, je prends un exemple qui est un peu atypique évidemment, mais qui est l'exemple d'Alpine. Alpine est une marque que nous on connaît bien avec ma casquette Havas. Ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on n'a pas relancé une marque ou lancé une marque en France. C'était un pari incroyable. Et cette marque, elle a été relancée à partir d'une communauté de passionnés. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ben elle n'est pas en comparaison, comparaison avec n'importe quelle autre marque. Elle est elle a une des gens qui la défendent, qui la nourrissent.
Mais c'est plus facile sur du premium.
C'est pas forcément plus facile sur du premium. Je voudrais absolument pas faire la publicité particulièrement du groupe Renault, mais regardez Dacia, qui est une autre marque de ce grand groupe français. Dacia, les gens considèrent que c'est un achat malin et autour de ça, crée un état d'esprit. J'ai vu l'autre jour un autocollant sur une Dacia avec grand pique-nique Dacia. Donc les gens, ils se retrouvent non pas autour d'une idée de la voiture, parce que c'est une voiture fonctionnelle, réussie, mais fonctionnelle, mais autour d'une certaine façon de voir le monde où la consommation est plus frugale. Ça, c'est une idéologie et il y a beaucoup de choses dans les marques aujourd'hui autour des nouvelles choses éthiques, autour du local, autour de la culture, peut-être des dimensions culturelles. Il y a des communautés qui sont en train de se créer, des grands amateurs de chocolat. Vous pouvez créer des communautés engagées, mais pour ça, il faut être transparent, il faut leur donner de la matière et puis il faut accepter de les écouter. Une communauté, elle reçoit pas seulement, elle dit des choses, parfois sympas, parfois moins sympas, et puis elle contribue. On pense aujourd'hui que demain, les gens contribueront de plus en plus à la création des produits.
Merci beaucoup Raphaël Deandré. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'UDECAM.
Merci à tous les deux.
Et nous sommes maintenant avec Julien Chiappolini. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes exécutif créatif directeur chez McCann. Vous étiez membre du jury Brand Content ici au Cristal. Le Brand Content, il est partout aujourd'hui. Est-ce que il est plus présent grâce aux réseaux sociaux ?
Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux ont obligé finalement les marques à trouver des nouvelles façons de communiquer parce que ça a créé une sorte de brouhaha, c'est-à-dire qu'il y a du contenu tout le temps, que ce soit des fake news, les posts de vos amis, il y a énormément de contenu tout le temps. Et au-delà de la pub traditionnelle, les réseaux sociaux ont obligé les marques à trouver des façons plus intéressantes pour le consommateur de communiquer. Après, on parle de brand content, je trouve que c'est presque un peu dépassé.
Déjà.
Mais c'est juste l'appellation.
C'est-à-dire oui, c'est ça.
Le format n'est pas dépassé, mais le format est tellement en évolution. Nous, on a vu là cette année dans le jury, ce qu'on appelait avant brand content, c'était des mini-séries, des formats très longs, des contenus proposés par des marques, mais plus comme un divertissement. Là, maintenant, on a eu très peu de formats courts, de mini-séries. On était plus dans comme ce qu'on appelle un peu du brand experience. D'ailleurs, c'est pour ça que la catégorie en tant que telle s'appelait Branded Entertainment et Content. D'accord. Donc, on est plus dans comment on va offrir aux consommateurs un contenu intéressant, un contenu qui va le faire rêver, un contenu qui va le faire rester des minutes, des heures, ça serait un peu
ambitieux.
Un peu ambitieux, pour qu'il s'intéresse à la marque, pour qu'on crée des affinités à la marque avec le consommateur.
Alors, il y a aussi une tendance qui est celle de créer des produits, de créer des objets qui aident les consommateurs dans leur vie de tous les jours. Il y a comme Citroën qui est...
Exactement, j'allais vous en parler justement.
J'ai envie de dire, c'est de la réalité ou c'est juste des coups comme ça, histoire de faire parler de soi ou est-ce que...
Alors, c'est un peu des deux. Ouais. C'est-à-dire que finalement, qu'une marque s'intéresse à trouver des solutions pour un vrai problème comme le motion sickness.
Ouais, c'est les lunettes qui empêchent d'avoir mal au cœur.
C'est ça. Qu'une marque s'intéresse à ce problème, parce que finalement, comme on fait de la voiture et qu'il y a des gens qui profitent pas forcément de l'expérience de la voiture puisqu'ils sont malades à l'arrière, on crée forcément du contenu. Du coup, parce que les gens vont parler, ils vont parler de ça, donc ils vont dire, là, dis donc, Citroën, c'est une marque qui pense à nous au-delà des produits qu'ils font. Donc, et en général, c'est le genre d'initiative qui se présente un peu comme un prototype, mais comme elles ont du succès et comme tout le monde en parle, ça incite les marques à aller plus loin, à proposer. Je crois que c'est, il y a un marché à Paris qui propose ces lunettes pour de vrai. Donc finalement, c'est un peu le succès de ce genre d'opération qui va permettre de faire avancer aussi les marques.
Mais est-ce que ces opérations, elles servent aussi quelque part à contrer l'abus de pub intrusive qu'on a pu avoir, c'est-à-dire aller chercher le consommateur par un autre moyen finalement ?
Ah bah tout à fait.
Moins agressif.
Oui, oui, bah, c'est-à-dire que déjà on crée un contenu intéressant. On n'est pas dans la réclame, on vient pas chez soi nous crier, enfin chez le consommateur, lui crier à l'oreille, bah viens m'acheter. On lui propose d'abord un contenu qui va l'intéresser de base, quelque chose qui va l'intriguer. Et c'est pour ça que souvent, c'est lié fortement à la culture, à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à ce que les gens ont envie d'entendre. C'est là aussi d'ailleurs que la data, et on en a parlé beaucoup hier, l'intelligence artificielle, va aider justement à comprendre plus efficacement ce que le consommateur est à même d'apprécier. Alors, avec les limites qu'on peut concevoir aussi intellectuellement, c'est-à-dire que si on cible trop, finalement, on va rester un peu ce qu'on appelle les bulles de réseaux sociaux, où on ne profite que du contenu qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais c'est là où la créativité, justement, des marques, avec les agences, permet de trouver de nouvelles façons d'intéresser le consommateur, donc de créer du contenu.
On a enfin réconcilié la créa et la data, alors.
C'est un outil. C'est un outil, la data. Ça peut être pris comme un gros mot, quelque chose. Enfin, finalement, tout le monde parle de data. Tout le monde, c'est juste une façon d'être plus précis, d'aller chercher pas juste une intuition, se dire tiens, je pense que ça pourrait intéresser, et je pense qu'il y a tel et tel pourcent de ci ou ça. Non, on va vraiment aller chercher des vraies données qui vont permettre de justifier notre travail. C'est plus au hasard.
Vous êtes d'ailleurs le premier Français à avoir gagné à Cannes un lion data créativité.
Oui,
ça évolue vite, ça. C'est
Ça évolue vite. Déjà oui, la façon de traiter les data, la façon d'aller les chercher, la façon de les transformer ensuite en produits créatifs, ça évolue. Mais après, tout dépend. On a vu Google Cloud qui a fait une opération justement qui justifiait presque l'usage de la data et qu'on faisait quelque chose de vraiment intéressant. Ça, c'est une traîne de faire juste quelque chose de très data-centré, mais en général, la data, elle est présente partout. Elle permet de générer plus de contenu, plus de résultats.
Merci beaucoup, Julien Chiappolini. Je rappelle que vous êtes exécutif créatif directeur chez McCann.
Merci à vous.
Merci.
Jean-Luc Chetrit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'UDA, l'Union des annonceurs. Et alors, pour 2019, j'ai vu que vous souhaitiez que les annonceurs retrouvent un petit peu d'intimité avec les consommateurs. Pourquoi ils l'ont perdu aujourd'hui, cette intimité?
Les marques, elles connaissent un moment un peu particulier, c'est que leur public, quand on leur demande ce qu'elles pensent de ces marques, ils expriment plutôt une défiance. Et tous les indicateurs, toutes les mesures, comme celles qui ont été partagées d'ailleurs pendant ce cristal, donnent une sensation de défiance entre les publics et les marques. Et pour essayer de corriger ce problème, il faut recréer de la confiance. Et pour recréer de la confiance, en effet, il faut s'assurer que les marques démontrent leur capacité à respecter, à montrer le respect qu'elles ont pour leur public. Et l'un de ces éléments du respect, c'est l'intimité. C'est le respect de la donnée personnelle et faire en sorte qu'elle soit pertinente, utile, mais jamais intrusive.
Alors, en fait, c'est quand même un petit peu paradoxal par rapport au travail qu'est la publicité. La publicité, ça consiste quand même à s'immiscer un petit peu dans la vie des gens pour faire la promotion des marques. Donc, comment est-ce que vous allez vous adapter justement à cette donne en respectant cette intimité?
Oui, c'est en effet un paradoxe. C'est-à-dire que pour permettre la pertinence, il faut pouvoir connaître les publics.
Ouais.
Et donc, il faut en savoir suffisamment pour éviter, soyons très concrets, d'envoyer le mauvais message, un message non pertinent à une personne.
En fait, il faut en dire moins, mais au meilleur moment, quoi.
Il faut être capable de faire ça. Et en même temps, être capable de se restreindre dans la recherche du ciblage, de l'hyper-ciblage. Donc, c'est cette gestion du paradoxe que les marques doivent désormais mener. Est-ce qu'on l'a bien fait jusque-là? Je ne crois pas. Sinon, nous n'arriverions pas à la situation qu'on vient de décrire, qui est une situation de défiance. L'ad-blocking, l'ensemble des bruits sociaux et des remarques qui peuvent remonter des publics démontrent qu'on doit savoir mieux le faire. Et donc, tout l'objet de nos discussions ces derniers jours, c'est comment l'intelligence artificielle peut nous aider. Pas pas conduire à ce que nos vies deviennent connues du monde entier, mais qu'elles soient suffisamment connues, ou en tout cas que des éléments pertinents soient connus, pour que la marque puisse, à ce moment-là, entrer dans une vraie conversation avec ses publics. On n'y est pas encore, mais il faut vraiment y travailler.
Est-ce que c'est parce que, justement, vous disiez, ce travail a été un peu mal fait, quelque part, qu'il y a aussi une défiance entre les annonceurs et leurs agences en ce moment ?
Ah, c'est un sujet large, en effet, celui de la confiance. Ça n'est pas qu'un sujet de relation entre les marques et leur public. C'est un sujet qui concerne tout l'écosystème. Les marques et les agences, elles doivent se trouver une nouvelle façon de travailler ensemble. Si je prends le modèle des agences médias, c'est un modèle qui a été basé sur l'achat d'espace. Aujourd'hui, les marques ont besoin de conseils. Et elles ont besoin d'avoir des conseils qui soient agnostiques, qui soient indépendants, qui soient transparents. Et donc, tout le travail des agences, on les accompagne à l'UDA dans ce travail, c'est de réinventer leur modèle pour aller vers du conseil. Et à ce moment-là, recréer les conditions d'une confiance avec les marques.
Au cours des débats qu'on a entendus ces derniers jours, justement, il était question d'une espèce de démarche commune de tous les acteurs de la communication, que ce soit en effet les agences, les annonceurs, les médias. Vous pensez que cette année, on va enfin, entre guillemets, y arriver ?
Moi, je crois qu'on y travaille déjà. On a, avec les agences de l'UDECAM, il y a une semaine, déployé un guide sur la transparence de la publicité programmatique, un guide pour créer un choc de confiance dans l'univers de la publicité programmatique, un vrai travail commun. On l'a fait d'ailleurs avec Ebiquity, donc un travail à trois, marques, agences et cabinets de conseil. Et on va poursuivre. Toutes les initiatives que nous allons porter en 2019 seront des initiatives communes. Parce qu'en effet, on ne peut pas faire bouger ce marché si on ne le fait pas ensemble. C'est pas en silo qu'on va réussir à faire bouger. C'est pas les annonceurs seuls contre leurs agences. Non, c'est les annonceurs avec les agences, avec les médias. Et je vais même jusqu'à dire avec les plateformes. Les fameuses plateformes dont on parle tant et qui doivent être des acteurs positifs. Et évidemment qu'il n'y a pas de naïveté, d'angélisme, mais on doit les emmener à travailler avec nous sur une communication plus responsable, une mesure de l'efficacité plus transparente, pas d'auto-mesure. Tout ça sont des chantiers de 2019 et on ne peut les mener qu'ensemble.
Merci.
Mais sans aucun angélisme dans la façon dont avec beaucoup d'ambition et de responsabilité dans la manière de mener ces projets.
Merci beaucoup Jean-Luc Chétrit.
Merci à vous.
Merci.
Et nous sommes maintenant avec Marie Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la marque du Club Med. On poursuit avec vous notre tour des tendances 2019. Et le mot qui émerge vraiment en ce moment, c'est communauté. J'imagine que c'est un sens très fort, ce mot-là, au Club Med.
Oui, c'est quelque chose de très fort parce que c'est vrai que c'est dans l'ADN de la marque. En fait, quand le Club Med a été créé dans les années 50, l'idée c'était d'avoir des endroits exceptionnels pour se retrouver, pour être heureux et passer des super moments ensemble. Donc la communauté, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN historique de la marque.
Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous dites finalement ça remonte aux années 50. Mmh. Et on a l'impression avec les réseaux sociaux que d'un coup on découvre ce terme de communauté, pas du tout en fait.
Non, pas du tout. Nous c'est quelque chose, en fait, à la base c'est des communautés réelles de GM, donc de gentils membres. On a même un vocabulaire de la communauté au Club Med bien avant le digital. Donc voilà, c'est les gentils membres qui se retrouvent en vacances et qui font du sport ensemble, découvrent de nouveaux endroits, rencontrent d'autres personnes, d'autres cultures. Donc voilà, il y a vraiment un ancrage réel au départ de la communauté au Club Med. Et évidemment, après, avec l'essor des réseaux sociaux, nous, ça nous a donné l'opportunité que les communautés Club Med puissent vivre au-delà de l'expérience en village juste pendant la semaine de vacances.
Justement, qu'est-ce que ça change concrètement, la digitalisation, la socialisation actuelle pour vous?
Ce qui est super, c'est que ça permet d'avoir un lien, en fait, qui va au-delà de juste la semaine de vacances. Et du coup, cette digitalisation, elle permet d'être sur une communauté qui vit avant, pendant les vacances et après. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie opportunité pour nous. Et c'est aussi une opportunité en termes de recrutement de nouvelles cibles. Parce que du coup, les communautés digitales et du coup, l'impact qu'elles vont avoir auprès de clients qui sont pas des habitués du Club Med, c'est vrai que c'est une vraie opportunité aussi pour la marque.
Alors une communauté, ça s'entretient évidemment, vous cherchez évidemment à l'élargir, on comprend bien, mais comment est-ce qu'on nourrit cette communauté ?
Alors, ce qui est entre guillemets facile pour une marque comme Club Med, c'est que ce qui se passe pendant les vacances, c'est tellement fort et il y a tellement voilà d'émotions, de souvenirs, même beaucoup plus que des souvenirs. En fait, quand on passe une semaine au Club Med, on apprend des choses, on découvre, on revient un petit peu différent de cette expérience. Donc, c'est vrai que ce qui se passe sur le moment est tellement fort qu'ensuite, si je peux me permettre, entretenir ce lien, ça passe par de la création de contenu, de l'animation de communauté. On a en fait des experts qui travaillent sur les différentes plateformes tout au long de l'année. Donc c'est tout un écosystème qui vient alimenter le discours tout au long de l'année et qui capitalise bien sûr énormément sur les émotions très fortes qui se passent pendant les vacances.
Au-delà de ça, c'est ça qui vous rend unique, qui vous rend inimitable dans un monde où bien des acteurs historiques ont toujours peur d'être ubérisés ou concurrencés ou amazonisés ou comparés, etc. Le fait que vous ayez cet ADN très particulier au Club Med vous protège en quelque sorte contre
peut-être
ça.
Oui, peut-être. C'est vrai qu'on a cet ADN très humain qui est vraiment quelque chose de très important pour la marque, mais aussi pour l'entreprise, voilà, tout en corporate et en interne, l'humain est extrêmement important. Donc c'est vrai que ça, c'est assez intangible, assez irremplaçable, et que quand il y a bientôt 70 ans d'humain et d'émotions très fortes, ça c'est quelque chose sur lequel c'est difficile d'être concurrencé directement.
Est-ce que vous en servez aussi pour faire progresser votre marque? Est-ce que vous allez piocher des nouvelles idées au sein de votre communauté?
Oui. On cherche des idées d'expérience, on écoute énormément ce qui se dit sur nous, bien sûr, on est très ouvert. Ça nous permet aussi, je trouve, d'être plus ouvert à d'autres secteurs. Voilà, ça
par exemple,
ça nous permet de regarder ce qui se passe un peu plus dans l'univers de la mode et qui peut être intéressant et venir nous aussi nourrir nos réflexions marketing. Ça nous permet de réfléchir à de nouvelles expériences en village. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant.
Merci beaucoup Marie Perrin, je rappelle que vous êtes responsable de la marque du Club Med.
Merci.
Voilà, Hebdocom spécial Crystal Mad, c'est terminé. On se retrouve l'année prochaine avec Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, pour une nouvelle saison d'Hebdocom. À très vite sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdocom sur BFM Business.